peuple, malheureusement, donne ce sentiment. La grave crise qu'a traversé la Côte d'Ivoire pendant près d'une décennie pour que finalement, après 5 ans de procédure, il n'y ait que le président Laurent Gbagbo qui doive rendre compte avec le ministre Charles Bégoudé de la crise post-électorale, donne ce sentiment d'injustice lorsque l'on sait justement que lors de cette crise post-électorale, près d'un tiers des victimes ont été occasionnées par les forces pro-Ouattara, qui répondaient aux ordres de M. Alassane Ouattara et de M. Guillaume Soro en une seule journée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Dioukoué. Donc je pense que cela, et puis la manière dont le procureur finalement sélectionne les personnes qu'elle entend poursuivre, donne un arrière-goût finalement d'injustice. Ou en tout cas d'une justice finalement tellement partisane qu'elle ne ressemble plus à la justice puisqu'elle ne se soucie pas véritablement ou elle ne donne pas le sentiment de se soucier de toutes les victimes sans aucune distinction.
Alors Erika Busset, là Maître Habiba Touré parle d'un sentiment d'injustice de la part de certaines victimes. Est-ce qu'il y a vraiment cette justice à deux mesures, deux poids, deux mesures? Est-ce que vous aussi, en tant que ONG des défenses de droits de l'homme, vous ressentez ça?
Je crois qu'il y a des préoccupations légitimes à l'égard de la CPI, mais au même moment, je ne crois pas que c'est vraiment le cas que c'est un cours qui cible seulement les Africains. C'est important de signaler que presque tous les pays africains qui sont devant la CPI étaient a été renvoyé à la CPI eux-mêmes. Alors, c'est pas la situation où c'est le procureur et aussi la CPI qui a choisi ces pays, c'est les pays eux-mêmes. Et je parle de l'Ouganda, je parle de la RDC, aussi de la RCA. La plupart des cas ont été renvoyés par les pays africains. L'autre chose, c'est qu'il y a vraiment même s'il n'y a pas de procès contre des auteurs présumés des pays dehors de l'Afrique, il y a des actes préliminaires dans plusieurs pays, la Palestine, l'Afghanistan, la Colombie. Et on va voir, c'est prévu que dans les mois qui viennent, que le procureur va peut-être ouvrir une enquête dans la situation en Afghanistan. Et ça va être intéressant parce que ça va couvrir non seulement les crimes par le Taliban, mais aussi par les forces américaines qui étaient là en Afghanistan. Alors, je pense que c'est important de reconnaître que même s'il y a des problèmes légitimes, il y a aussi, c'est un peu mal compris la CPI.
Alors, Maître Habiba Touré, vous qui travaillez au quotidien justement avec le bureau du procureur, puisque vous avez votre client sur place, quelles sont les choses auxquelles quels sont vos principaux défis? Quelles sont les choses qui sont les plus compliquées à gérer justement dans ce dossier?
Bon, vous savez, moi, je travaillais pas au quotidien avec le bureau du procureur, hein, mais nous sommes en relation, notamment par rapport au dossier des victimes, puisque vous savez que je représente, nous représentons près de 4000 victimes maintenant qui ont demandé au bureau du procureur de mener des poursuites contre les personnes qui a suspecté de graves crimes contre l'humanité et de génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et finalement, ce à quoi on est confronté de la part du bureau du procureur, c'est un malaise. Finalement qui s'enferme dans un certain silence puisqu'on nous demande de patienter, d'être patient, que le bureau du procureur se soucie de toutes les victimes, mais d'un point de vue strictement factuel, c'est tout le contraire. Alors, mais pour répondre à... j'ai pas très bien entendu, mais je crois avoir entendu qu'effectivement les cas ouverts par la Cour pénale internationale ont été à l'initiative des États africains. Mais c'est pas, je pense, le reproche fondamental qui est fait à la Cour pénale internationale. Ce qui lui est fait au travers du bureau du procureur, c'est de mener des poursuites, de donner un sentiment des poursuites partisanes. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous savez très bien qu'il y a eu une déclaration de compétence qui a été faite sous le président Laurent Gbagbo pour les crimes dont on suspectait la rébellion depuis 2002. Et le bureau du procureur attendra 2011 pour véritablement engager des poursuites. Et contre qui? Contre le président Laurent Gbagbo. Et ce qui a été d'autant plus choquant, c'est que je vous rappelle que la procédure a officiellement commencé en octobre 2011, et le 29 novembre 2011, soit plus d'un mois plus tard, le président Laurent Gbagbo était transféré à la CPI pour répondre des crimes dont il était accusé. Et 5 ans après l'ouverture des procédures, de la procédure, de la situation ivoirienne, vous n'avez toujours rien concernant les crimes intervenus, notamment dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est là, le malaise. C'est un malaise sur lequel on peut répondre d'un point de vue factuel.
Alors concrètement, aujourd'hui, pour votre client, vos clients, comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes de la procédure 5 ans après?
Mais écoutez, vous avez une accusation qui est censée apporter des éléments de preuve concernant le président Laurent Gbagbo, qui est censée ramener des éléments de preuve au travers de ces témoins, qui s'avèrent pour la plupart finalement être des témoins à décharge. Parce que si vous voyez la plupart des témoins qui ont défilé devant la Cour pénale internationale, on ne voit pas trop où est le plan commun, on ne voit pas trop de quelle manière on peut retenir la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Bon, l'accusation aussi nous indique, le bureau du procureur, nous indique, continuer ses investigations concernant les graves crimes contre l'humanité intervenus dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais, là encore, on ne voit pas, on peut pas comprendre qu'en un mois, ils aient pu trouver tous les éléments de preuve qui aient justifié l'émission d'un mandat d'arrêt concernant le président Laurent Gbagbo, et qu'en 5 ans d'investigation, ils aient été incapables d'émettre des mandats d'arrêt contre des personnes suspectées de graves crimes contre l'humanité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Alors, Erika Busset, pour Amnesty International, comment justement ça se passe, les relations avec la CPI dans les dossiers que vous avez, les victimes que vous rencontrez et tous les témoignages que vous collectez? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait en sorte que la balance puisse pencher d'un côté ou d'un autre? Est-ce que la CPI est trop politisée? Est-ce qu'il y a trop d'enjeux diplomatiques?
Je pense que c'est très difficile de déconnecter la CPI de la politique. C'est une institution juridique, mais c'est très difficile quand tu es en train d'inculper les chefs d'État que la politique n'entre pas dans. Mais je crois pas que la politique vraiment entre dans les décisions du procureur. Et je sais que dans les cas comme la Côte d'Ivoire, comme on a entendu, que c'est seulement les forces, c'est Gbagbo et pas les forces Ouattara qui ont été inculpés. Ça, je crois que ça, c'était une situation très difficile pour la Cour. Et je crois aussi qu'ils ont des leçons qui ont été apprises de cette situation. On va voir, il y a une enquête dans la RCA et je crois que le bureau du procureur est vraiment sensible à cette question et je pense qu'on va voir que les mandats d'arrêt pour les ex-Seleka et les anti-Baraka vont être lancés au même moment pour éviter les mêmes problèmes qu'en Côte d'Ivoire.
Alors, on va effectivement suivre ça. On va prendre quelques réactions Facebook parce que vous avez été nombreux à réagir sur notre page comme toutes les semaines. Nous avons Doldi Ndelo en RDC qui nous dit « Le monde doit avoir une juridiction neutre et indépendante afin de dissuader tout homme qui se croit être supérieur aux autres en se livrant à des atrocités indescriptibles. » Mais la CPI a montré ses limites. Omar Boulalé Nassa en France qui nous dit « Pourquoi rejeter cette cour sans avoir un consensus pour créer une cour capable de juger et de punir nos bourreaux? Chaque dictateur prend pour bouc émissaire la CPI. » Nous avons avec nous monsieur Ali Ouattara, vous êtes président de la coalition de la CPI en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Bonsoir. Monsieur Ouattara.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous entendons bien. Je disais, vous êtes président de la coalition pour la CPI en Côte d'Ivoire, c'est bien ça?
Effectivement, oui.
Alors, nous étions en train de revenir sur le rôle de la CPI. Il y a un commentaire là qui est assez marquant, qui nous dit « Pourquoi rejeter cette cour sans avoir un consensus pour créer une cour capable de juger et de punir nos bourreaux? Chaque dictateur prend pour bouc émissaire la CPI. » Est-ce que pour vous, il y a aussi ce sentiment de justice à deux vitesses? Est-ce que la CPI arrive vraiment à faire son travail? Et est-ce que les gens arrivent à avoir confiance en cette instance pour juger les gens?
Merci. Je vous ai dit que la CPI, c'est une cour qui est très jeune. Donc, elle doit bénéficier d'une circonstance actuelle par rapport au bilan actuellement qui est mitigé. Et la CPI, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un tribunal qui vient s'imposer, s'immiscer dans l'affaire des pays, mais c'est un tribunal qui est complémentaire des juridictions nationales, comme l'indique son statut en article 1. Donc, c'est lorsque les États n'ont pas la capacité juridique, mais n'ont pas la volonté, quand ils sont États partis, que la CPI intervient, au moment de tenir le cours. Mais ce que nous constatons dans nos États, particulièrement les États africains, c'est que malheureusement, nos juridictions n'ont pas justement cette capacité juridique. Et très souvent, même quand nos États l'ont, on sent le politique qui a sa main dans les affaires judiciaires. Ce qui fait que très souvent, nos chefs d'État n'ont pas la possibilité d'être jugés comme cela se passe dans les différents États lorsqu'ils ont commis certains crimes. Puisque très souvent, on constate que justement ces chefs d'État sont soit les chefs suprêmes de la magistrature, c'est eux qui nomment les juges, c'est eux également qui font la promotion des juges, et évidemment, ça pose des problèmes. Et nous avons eu espoir à la création de la CPI comme une juridiction complémentaire, justement, des tribunaux nationaux et de l'Union africaine. À travers, je pense, la Cour africaine de justice, on avait pensé qu'elle pouvait prendre la relève.
Alors justement, on reviendra sur les alternatives qui existent dans la deuxième partie d'émission. On va déjà marquer une courte pause. Restez avec nous dans Washington Forum.
En plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite.
De retour dans ce Washington Forum, l'opinion publique africaine voit d'un mauvais œil les poursuites engagées par la CPI contre ses dirigeants, pointant du doigt la propension de la justice internationale à s'acharner exclusivement sur des chefs d'État ou responsables africains. L'Afrique veut désormais juger elle-même les affaires judiciaires qui la concernent. En Côte d'Ivoire, notre correspondante Narita Namasté a posé justement la question de savoir si la CPI était une bonne chose dans les rues d'Abidjan. Écoutez.
Quand on dit on veut juger les crimes contre l'humanité, on veut protéger l'humanité, c'est-à-dire on est censé apporter une certaine justice. Or, ce que tous les pays africains reprochent, ce que tous les jeunes africains reprochent, la majorité des jeunes, c'est que ces crimes soient sélectifs, c'est que les jugements soient sélectifs. Voilà. Et il y a eu aujourd'hui le cas libyen, il y a eu plusieurs cas dans ce monde où certains pays occidentaux, où certains dirigeants occidentaux sont pointés du doigt.
Ce sont ces grandes puissances-là qui instrumentalisent la CPI pour traquer les dirigeants africains. C'est vrai qu'ils posent des actes qui sont répréhensibles. Qu'on donne les moyens, que même se donnent les moyens pour juger les responsables africains, l'impunité, je suis contre. Mais l'impunité instrumentalisée, là, je ne la soutiens pas.
Et c'est important qu'il y ait une cour qui soit au-dessus de toutes les autres cours pour pouvoir juger les impunités et tout ça. Donc, en tant que tel, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, en fait, je vais dire. Mais bon, la seule mauvaise chose que moi, je vois actuellement, comme je l'ai dit, c'est que la cour est là juste pour juger les Africains. On a l'impression qu'il n'y a que les Africains qui commettent des exactions, alors que ce n'est pas vrai.
Si les pays africains veulent vraiment se prendre en charge, ils peuvent avoir des moyens pour se juger eux-mêmes s'il y a des faits dans les pays africains. Mais attendre à ce que quelqu'un te juge à ta place, c'est que tu es toujours sous la coupole de ces blancs qui ne font que la justice à leur part, pas des Africains.
C'est ces pays qui font les différentes démarches pour pouvoir sortir de cette communauté. Au contraire, c'est vraiment très bon parce que une structure qui n'est pas bonne, il faut la quitter.
Alors l'ex-président tchadien Issa Nabré a été jugé pour crime contre l'humanité dès septembre 2015 à Dakar. Il avait alors récusé la juridiction des chambres africaines extraordinaires, le tribunal spécial créé en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine, et il en conteste à la fois la légalité et la légitimité. Erika Busset, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer justement du procès à Abré? C'est un des premiers du genre sur le continent. Est-ce que c'est un exemple à répéter?
Oui, je crois que c'est un très bon exemple. C'est la première fois de l'utilisation de la compétence universelle en Afrique. Et j'espère qu'on va voir des autres cas de l'usage de cette compétence. C'était vraiment un tribunal hybride avec des juges pour la plupart sénégalais. Et ça montre aussi l'intention de l'Union africaine d'être plus impliquée dans les crimes graves. Et on voit que l'Union africaine est en train d'établir en ce moment un tribunal pour le Sud-Soudan. face à des problèmes politiques là-bas, c'est un peu difficile. Mais quand même, tu vois que l'Union africaine est beaucoup plus impliquée dans ces questions.
Alors, l'Union africaine est impliquée, mais il y a encore beaucoup de pays qui ne suivent pas. Tout le monde n'est pas sorti du traité de Rome. On a l'impression que ce traité de Rome prend un peu les gens, les différents gouvernements en otage, non?
Non, je crois que ce qui est important, c'est que c'est pas qu'il y a seulement la CPI ou il y a seulement un tribunal comme le tribunal pour le Hissène après. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de la justice, comme Monsieur Ouattara a dit, il y a le principe de la complémentarité. C'est pas que la CPI va prendre tous les cas, seulement les cas des plus hautes gradés qui vont être prises par la Cour pénale spéciale internationale. On voit, par exemple, en Centrafrique maintenant, la CPI est en train de faire une enquête et au même moment, ils sont en train de créer un cours hybride qui va avoir le personnel international et aussi des magistrats de Centrafrique. Et aussi, les cas vont être jugés par le système national. Alors, ce n'est pas seulement la CPI ou un tribunal hybride, ça peut être tous des différentes manières de la reddition des comptes au même moment.
Alors, Habiba Touré, est-ce que vous estimez que vos clients auraient pu bénéficier ou auraient dû bénéficier d'une telle forme de procès en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un tribunal aussi hybride comme on vient de l'expliquer, est-ce que ça aurait été plus sain?
Bon, je pense que nous, dans notre cas, dans les différentes procédures ouvertes, hein, c'est que on n'a pas nécessairement une procédure hybride. Hein, on est soumis où la justice ivoirienne dans le cas de Simone Gbagbo et de bien d'autres personnalités politiques ivoiriennes, ou à la justice ou à la Cour pénale internationale. Alors c'est vrai que on fait souvent état de la complémentarité, et c'est vrai que la Cour pénale internationale est une justice en principe complémentaire qui ne saurait se substituer à la justice nationale. Elle n'intervient que si l'État, le pays, finalement, ne montre aucune volonté à poursuivre. À ce moment-là, effectivement, la Cour pénale internationale peut poursuivre. Et les critiques qui sont émises, et je pense que l'une des personnes qui est intervenue en Côte d'Ivoire l'a indiqué, c'est le caractère sélectif des poursuites. Et le cas de la Côte d'Ivoire, on est malheureusement un cas assez patent, vu qu'on ne poursuit qu'un camp. Mais autre chose concernant la notion politique, puisque c'est l'une des critiques, et l'une des personnes l'a également indiqué, le caractère politique qui fait qu'on discrédite un peu les justices nationales en Afrique au profit de la Cour pénale internationale, alors que finalement la critique politique, on peut également la faire vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier que des personnes, des personnalités, des chefs d'État, des hauts dirigeants peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, un certain nombre des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas ratifié le statut de Rome. Or, et paradoxalement, par le biais du Conseil de sécurité, ils peuvent enclencher des poursuites, tout en s'en dispensant eux-mêmes, en ne permettant pas à ce que la Cour pénale internationale puisse poursuivre leurs dirigeants. Donc ce caractère, cette intrusion du politique, quelque part, discrédite aussi la Cour pénale internationale. Pour ma part, il est évident que je pense qu'il faut une justice continentale, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Puisqu'il me semble un peu aberrant de juger des gens, finalement, des peuples, des cultures que l'on ignore complètement. Donc je suis nécessairement favorable à une justice continentale, mais après, la question qui va se poser, c'est le financement de cette Cour et comment garantir qu'il n'y ait pas une indépendance.
Il faut garantir aussi une indépendance. Ali Ouattara, vous avez entendu les propos de maître Touré. Ali Ouattara, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Alors, pour vous, aujourd'hui, est-ce que la CPI est en danger? Est-ce que ce divorce que certains pays réclament, et ils ont d'ailleurs engagé des démarches, comme le Burundi ou l'Afrique du Sud, est-ce que pour vous, ce divorce peut être consommé? Et est-ce que des tribunaux continentaux, est-ce que la justice continentale est à même de pouvoir prendre le relais? Est-ce qu'il faut juste s'y mettre, en fait?
Bien, merci. Je crois que certaines critiques sont fondées, d'autres par contre ne sont pas. Parce que lorsqu'on accuse la Cour de défense souvent les dirigeants africains, il faut rappeler qu'il y a trois mots de saisie au niveau de la Cour et que beaucoup, l'État parti peut saisir le bureau du procureur, comme le procureur peut le faire, le procureur Moutou, ou alors le Conseil de sécurité, comme l'a signé quelqu'un tout à l'heure. Mais dans beaucoup de cas en Afrique, ce sont les chefs d'État, les États partis eux-mêmes qui ont fait de quoi la Cour. Quand on prend le cas de la RDC, le cas de la RCA, le cas de l'Ouganda, et j'en passe, ce sont les chefs d'État, ce sont les États eux-mêmes, qui sont libres, qui ont adhéré au statut, qui ont demandé à ce que la Cour vienne enquêter. Donc, le 12 janvier, cette critique-là, qui malheureusement est faite dans le cadre d'un syndicat de chefs d'État, malheureusement, qui ne pense pas aux victimes africaines. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce sont les Africains, les victimes africaines, qu'on doit voir. C'est eux qui doivent être l'intérêt
alors, justement...
de nos chefs d'État. Alors... Donc, laisse-moi terminer. Donc, c'est pour dire que ce que nous on constate, c'est qu'on souffre trop sur les chefs d'État. Un chef d'État, mais s'il a commis des crimes, il doit rendre compte. Mais il faut penser aux victimes. Depuis l'indépendance de l'Afrique.
Effectivement. Je vais donner la parole, si vous le permettez, à Erika Busset. Justement, on parlait des victimes. Est-ce que aujourd'hui, ces différentes sortes de justice peuvent éviter, peuvent prémunir de ce qu'on appelle la justice des vainqueurs? Certains l'ont mentionné, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire.
Oui, j'espère que s'il y a plusieurs formes de la justice, les victimes vont trouver une manière de rendre des comptes et de pouvoir avoir la vérité et aussi les réparations. Mais je crois, je reviens un peu à la question qui a été posée sur la question de justice régionale. Parce que là, on parle souvent de, il y a une proposition sur la table, le protocole de Malabo qui crée un tribunal régional, comme la CPI qui a compétence sur les crimes graves comme le génocide, les crimes de guerre, mais aussi sur les autres crimes transnationaux comme le terrorisme. Et c'était créé comme une alternative à la CPI. Mais finalement, le problème avec ce tribunal, c'est que ça propose l'immunité pour les chefs d'État et aussi pour les autres hauts fonctionnaires. Alors, est-ce que ça, c'est une véritable alternative à la CPI? Parce que dans ce cas, les chefs d'État, la CPI a toujours la juridiction sur ces chefs d'État. Alors, c'est une bonne idée en principe d'avoir une justice régionale, mais je crois que...
Il faut encore voir comment ça peut être mis en place. Alors, on va prendre d'autres réactions Facebook. Nous avons notamment Richard Zoulizongo au Burkina Faso qui nous dit « Pourquoi juger des Africains seulement alors que les Occidentaux ont commis des atrocités partout dans le monde? La CPI est injuste et partiale. » Jean-Luc Moukoutou en RDC qui nous dit « La justice dans la plupart des pays africains est décriée et souvent prise en otage par les dirigeants politiques. C'est aux Africains eux-mêmes de se doter d'institutions judiciaires fortes et totalement indépendantes des politiques s'ils veulent s'affranchir de la CPI. » Alors, cette dernière question, entre la CPI et une justice par pays, quel système peut le mieux fonctionner? Alors, on a vu une justice régionale, on a vu des chambres extraordinaires, par exemple au Sénégal. Quel est le meilleur schéma aujourd'hui pour que les gouvernements africains se réapproprient leur système judiciaire? Maître Touré.
Oui, alors moi je suis assez partisane d'une justice régionale, d'une justice déjà continentale et régionale, mais qu'il faut, je pense, tirer les leçons de tous les écueils, que ce soit vis-à-vis de la Cour pénale internationale ou même des écueils qu'on peut retrouver dans les systèmes nationaux. Il ne faut pas oublier que devant la Cour pénale internationale, qui prétend se soucier justement des victimes, les victimes ne peuvent pas déposer plainte devant la Cour pénale internationale, ce qui paraît choquant. Comment peut-on empêcher des victimes de crimes contre l'humanité, des crimes les plus graves, de la saisir? Donc moi je pense qu'une cour régionale qui permettrait à des victimes à partir d'un certain nombre de se réunir et de saisir une cour régionale donnerait de la légitimité à cette cour-là, parce qu'il ne viendrait pas d'un procureur élu ou d'un conseil de sécurité, mais des victimes elles-mêmes, avec un nombre suffisant, de saisir la cour pour voir des poursuites engagées vis-à-vis de personnalités.
Ça va déjà être. Je vais devoir vous couper. C'est déjà la fin de cette émission. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Restez connectés sur VOA Afrique pour resuivre l'émission. Et un clin d'œil à TV7 à Lomé qui diffuse Washington Forum au Togo. À la semaine prochaine.
Et nous, c'est bon. votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les nôtres.
Vie africaine.
Vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.